Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h,
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h03, Tim Dugas continue dans sa deuxième heure avec Jean-Louis Tour et Captain Larquet, toujours présent messieurs.
On est là. Pas moi en tout cas.
Captain.
Ouais, moi aussi.
Ah bon, très bien.
Ah, très bien, moi Jean-Michel. Nous accueillons Fred Hermel, Julien Cazard et Gilbert Bribois. Salut les copains.
Hola chicos.
Salut tout le monde.
Oh, le triplette que ça fait d'un coup, ah, là. Cazard, ouais. Bribois, Hermel, là, c'est fou.
Ah, c'est fou.
Il y a quelques heures de boîte, là. Hein.
Que des bons remplaçants.
Moi, je suis très ému de participer à une des dernières émissions avec Tim Dugas et Captain Larquet.
Ah, ben, Captain Larquet ne part pas.
Pourquoi tu es viré?
Non, mais avec Dugas.
Oui, ouais. Il y a encore deux semaines derrière.
Bon, j'espère que Jean-Michel sera encore là dans 20 ans.
Alors.
Il nous enterrera tous.
Alors, attends, ouais. Gilbert, il y a encore deux semaines de Tim Dugas. Et puis. À l'image de Captain Larquet, les comebacks sont possibles.
Oh, j'en étais sûr. J'en étais sûr.
Les gars, il veut faire comme Jordan, il veut partir pour que tout le monde se supplie.
Tu veux dire comme Zidane,
Zidane pour un comeback au 15 octobre.
Ouais, tu veux dire que comme Jean-Michel, je vais me faire chier à la maison, tu veux dire?
Ouais, c'est possible, les gars.
Parce que là, t'aimes ta famille, parce que tu les vois jamais.
Oui, parce que le concept de profiter de sa famille, ça dure pas assez, ça dure un peu, puis après.
C'est bon, mytho, hein.
Si vous n'aimez pas votre famille, n'en dégoûtez pas les autres.
Incroyable. C'est pas parce que t'aimes pas les brocolis, hein.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Capitaine, une réaction?
Non, aucune. Très moi, je me sens bien et je sais pas si. Il s'emmerderait, mais moi cet après-midi, tu vois, je croyais passer un bon moment, j'ai pris une telle branlée au golf que finalement,
ouais, c'est pas si mal que ça.
C'est mieux d'être à la radio.
T'as joué contre
j'aurais
Laurent
mieux fait de rester à la maison. J'allais pris une bonne. Mais une bonne.
Ah bon, tu continues l'année prochaine, capitaine?
Le golf ou
quoi? Le golf, oui, ça
non,
c'est
non,
sûr.
Non, la radio.
Bien sûr.
La radio?
Ouais. Oui.
Et je suis comme Draxler, on me demande la soupe est bonne.
Ouais, mais t'es autrement plus motivé que Draxler quand même. Tu le mérites.
Ah oui.
Ouais, mais c'est pas difficile d'être plus motivé que Draxler. Ça, je te le dis tout de suite. Hein.
Bon, dans l'heure qui vient, on va revenir en détail sur la Grande Espagne de 2008 à 2012. On va revenir également sur les individualités qui composent cette Grande Espagne. Aucun de ces joueurs, les Iniesta, Xavi, Ramos, Piqué, ne gagnera le Ballon d'Or. Alors peut-être Sergio Ramos, on sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, aucun d'entre eux n'a gagné le Ballon d'Or. On s'interrogera là-dessus également. Et puis, il y aura le blind test tout à l'heure. 32-16 pour vous inscrire. Alors, on va se tourner évidemment vers Fred Hermel pour débuter. Cette Grande Espagne, donc, le premier titre, c'est 2008. Comment déjà tu pourrais qualifier l'avant, ce qui s'est passé avant, jusqu'à cette victoire à l'Euro 2008? Quel souvenir tu en as?
C'est un pays qui ne regarde que très peu sa sélection. C'est un pays ultra club et qui a l'habitude de voir sa sélection perdre en huitième de finale ou en quart de finale. Voilà, c'est...
Partie toujours des favorites.
Des favorites, c'est-à-dire qu'elle fait des qualifs en général en gagnant tous les matchs, en terminant première de son groupe. Et puis arrive la phase finale. Alors pendant la phase de qualification, très peu de gens et les médias s'intéressent à la sélection. Hein. Il n'y a pas le phénomène de la Roja. D'ailleurs, la Roja est une invention de Luis Aragonés, hein, pour essayer de donner un petit peu d'identité, hein, parce qu'on disait jamais la Roja, la rouge. Il essaye de créer un mouvement autour de cette équipe, créer une sorte d'allégresse dans le peuple espagnol autour d'une équipe, alors que les mecs, ils sont du Barça, ils sont du Real, ils sont de Valence, voilà, ils sont pas très sélection. Et puis arrive la phase finale, comme les gens aiment le foot, bah ils regardent, et puis ils se font taper. Alors il y a un grand traumatisme quand même, c'est 2002, hein, c'est la Coupe du Monde avec le match volé face à la Corée, avec l'arbitre Monsieur Al-Ghandour, l'arbitre égyptien, qui est un truc, mais enfin c'est l'un des sommets.
Mais quand c'est pas pour le Real, c'est sûr que c'est plus choquant.
Bah, puis surtout c'est moins courant, c'est ce que tu veux dire.
Ouais,
donc ça étonne plus. Voilà.
Moi, au match, j'ai rien remarqué. Hein. Ah.
Tu t'es pas dit il y a pas mieux qu'un arbitre égyptien pour arbitrer ce match?
Non. Bah non, ça c'était pour Jean-Michel.
Oui, très bien.
Et donc voilà.
J'adore l'Égypte. Ma mère est Alexandrie.
Et puis arrive 2008, et là il se passe quand même, on a totalement oublié cet épisode, mais 2008 ça commence par un grand nettoyage.
Oui, Raoul qui n'est pas là.
Raoul Salgado, il y a toute une génération de mecs qui avaient un énorme pouvoir. Et
Raoul, il n'est pas à Marseille, je comprends rien moi.
Raoult.
Oh là là, pas bien. Alors attends, déjà, j'ai pas fait un tweet. Tu vas vraiment nous manquer, en fait. j'ai fait un tweet sur le sujet. Ah,
excusez-moi, suite à la pourquoi il est déjà là, le mec du blind test?
Bon, vas-y, Fred, reprends.
Oui, donc, non, mais il faut voir le traumatisme que ça représente, parce que Raoul, c'est quand même le mec le plus puissant du foot espagnol à ce moment-là.
Ah oui, je sais.
Donc, c'était une décision très, très courageuse, finalement, de Luis Aragonés, qui est un vieil entraîneur, déjà un type assez antipathique, hein, je l'ai bien connu, hein, c'était pas quelqu'un de très gentil, oui. Mais qui avait...
Que Sharon Stone ou pas?
C'est pas le même genre. Et tu parles de mon cocktail, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'était juste avant dans le journal moyen, en fait. Adrien l'a pris dans le journal moyen juste avant, c'est pour ça.
Ah oui, c'est pour ça. Et donc, en fait, Luis Aragonés, mais comme il est détesté par... Enfin, il n'est pas très sympathique, etc., on ne peut pas dire qu'il y a une grande cote et tout, mais il arrive à créer quelque chose autour de lui avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équipe un peu commando. C'est-à-dire que les joueurs disent, ouais, le mec, il a osé faire partir Raoul, Salgado et ces types-là qui avaient beaucoup de pouvoir au sein de la sélection. Et donc, il y a une sorte de... Je sais pas, d'union, de commando, etc. Et puis, y a un gardien qui s'appelle Casillas, qui fait des arrêts extraordinaires au moment où l'Espagne doit perdre.
Et Fred, attends, juste avant, il y a un truc quand même important. C'est qu'il y a aussi les deux capitaines du Real et du Barça qui ouais. ont envie que l'Espagne gagne. Casillas et Xavi.
Voilà, ça aussi, c'est tout à fait raison, parce que ce qui provoquera après du temps de Mourinho une grave crise, hein, entre Mourinho et Casillas, hein, Mourinho le traitant même de traître, parce que lui il appelait Xavi pour essayer, quand c'était vraiment très exacerbé entre Mourinho et Guardiola, entre le Real et le Barça, Xabi Hernandez et Casillas, ils se connaissent depuis qu'ils ont 13-14 ans dans les équipes de jeunes espagnoles, sont très amis, et eux aussi ils ont envie vraiment de faire quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se crée au sein du groupe. Et puis aussi, on va pas cacher les choses. Il y a quand même Luis Aragonés, qui humainement est pas forcément un mec très sympathique, mais qui a quand même, c'est quand même le mec qui fait jouer Iniesta et Xavi ensemble. Ils l'ont oublié à Barcelone. Mais le premier qui leur fait confiance tout le temps dans la même équipe, dans le même 11, c'est Luis Aragonés.
Ah oui, en 2008, c'est pas le cas à Barcelone.
Ben non, c'est-à-dire que c'est lui qui... Alors, il joue parfois, mais celui qui les installe totalement dans une équipe titulaire, dans une phase finale, dans les matchs importants, c'est lui. Mmh. Et là, c'est génial, parce que c'est deux joueurs qui se révèlent totalement complémentaires et qui vont dominer le football pendant de nombreuses années. Alors, Fred, simplement une petite phrase par rapport à ça. Je sais que les joueurs du Real et les supporters du Real n'aiment pas qu'on rappelle ça, mais la victoire de la sélection, c'est aussi la victoire de la Masia, du centre de formation du Barça.
Pas 2008, Fred. Bah, 2008, il n'y a que 3 Barcelonais dans les 23.
Il y a quand même Iniesta, Xavi, Puyol.
Excuse-moi,
c'est tout.
Fabregas.
Non, il est à Arsenal.
Non, mais il est
que. Oui, mais il est formé au Barça.
Non, mais c'est le style. Oui, c'est le style de jeu.
C'est que. Fred a raison. Honnêtement, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont 7 ou 8 dans les autres compètes. Mais sur celle-là, ils sont que 3.
Ensuite, avec les arrivées de Busquets, de Piquet, effectivement.
Voilà, c'est plus en 2010.
C'est vrai, mais. Bon, il y a quand même.
C'est la victoire du style Barça.
Alors voilà, justement. Alors,
c'est le milieu de terrain qui compte. C'est le milieu de terrain qui compte.
Et comme ça, Captain et Dugas vont pouvoir intervenir aussi, puisque on ne peut pas parler de cette hégémonie espagnole sans parler du jeu, Dugas. Ça a dû te plaire de voir ça en sélection, de voir l'équipe qui domine son sujet, qui gagne à la fin.
Oui, bah après c'était nouveau, même si on l'avait vu du côté du Barça, on pensait pas, et d'ailleurs souvent les sélectionneurs nous disent on n'a pas le temps de travailler pour mettre en place le jeu. Donc là on a eu l'impression que c'était le jeu d'une équipe, d'un club qui se mettait en phase dans la sélection. Donc c'est vrai effectivement assez impressionnant. Après rapidement ça a fonctionné, parce que ça a permis de gagner. À partir du moment où ce jeu ne permettait plus de gagner, ce qui s'est passé ces dernières années, ça devient aussi par moments un jeu assez ennuyeux. Mais la question c'était de savoir, est-ce que ce jeu du Barça sans Messi pouvait se mettre en place? Et là l'Espagne a réussi à le faire et a mené cette équipe à gagner. Donc ça a été pour moi, dans mes souvenirs, le meilleur football que j'ai pu voir, qui permet en plus de gagner, où tout était allié, et le style et la victoire. Et moi j'ai adoré, mais vraiment, regarder cette équipe d'Espagne avec, c'est vrai, en tête de gondole, c'était quand même ce duo Xavi-Iniesta qui faisait beaucoup de choses.
Capitaine. Alors Fred, vas-y, pardon, Capitaine, vas-y.
Non, vas-y Jean-Michel. Juste simplement, oui, pour vous dire que c'est vrai que il est très rare d'identifier le jeu d'une équipe nationale. Alors pour je ne vais pas aller très très loin, mais je vais aller quand même un tout petit peu loin. La dernière qui avait été véritablement identifiée par rapport à son jeu, c'était celle des Pays-Bas de 74 et 78, qui avait été, qui ressemblait à l'Ajax de, qui avait régné sur l'Europe en 70. Autrement, même l'équipe d'Allemagne qui a été championne du monde avec un gros effectif du Bayern Munich en 74, on peut pas dire qu'elle ait subjugué les foules par son style de jeu, voyez-vous. Pas davantage l'Angleterre de 66. C'était qui le petit Manchester, peut-être le club le plus à l'époque le plus en pointe. Bon, mais c'est vrai que l'Espagne avait un jeu que l'on identifiait clairement. Mais tout à l'heure vous parliez des Barcelonais. Alors vous parliez que de ceux qui étaient à la Masia, parce que le dénommé, je vais pas dire Villa, l'avant-centre, il jouait bien à Barcelone.
Alors hein, pas en 2008 en fait.
Il n'est pas formé à Barcelone. D'accord.
Surtout, il joue assez peu en 2008. Il est vraiment titulaire en 2010, David Villa. L'équipe de 2008, si vous voulez, c'est Casillas dans les buts, Ramos arrière droit, Marchena, Puyol, ouais, Cap de Villa, Senna, Xavi, Fabregas, Iniesta, Silva et Torres. Voilà, qui marquera en finale. Voilà.
Mais Silva, je vous parle de Silva.
David
Silva. Oui, je vous
David
dis Silva. Villa, oui, oui.
Ouais. Ah oui, bah pardon, excusez-moi.
Et oui, on l'a oublié.
Vous êtes sûr que vous allez le garder pour l'année prochaine?
Il est cramé, là, non?
Il est un peu cramé.
C'est vrai que David Silva, il était. Il a marqué cette époque, c'est un très bon joueur, David
Alors,
Silva, quand même.
Hein. Gilbert,
je comprends parce que Villa, attends, c'est aussi David.
Oui, vas-y, Julien.
C'était plus facile pour le sélectionneur de les mettre ensemble, Xavi Iniesta, parce qu'au Barça, t'avais Deco et Ronaldinho, quand même. Donc c'était peut-être, tu vois, au niveau des statuts, c'est Iniesta, c'était le petit jeune qui monte.
Bien sûr, bien sûr.
Il avait cette image un peu de gamin. Et donc, et puis moi, je me rappelle à l'époque, moi j'écoutais déjà l'After, et tu disais que le mec avait beaucoup monté aussi. C'était Marco Senna.
Alors oui,
parce qu'il avait amené quelque chose au milieu de terrain qui manquait toujours à l'équipe d'Espagne.
Et
dans le côté
de très bons souvenirs. Et c'est exactement Marco Senna qui avait été naturalisé espagnol. Il est brésilien au départ, Marco Senna.
Exactement.
Et Marco Senna, en fait,
qu'est-ce qu'il était à Villarreal, avait, lui, non?
Oui. Villarreal. Ouais. Il avait toujours manqué à l'Espagne ce milieu défensif. Enfin, un Claude Makélélé, quoi. Voilà, pour être clair.
Alors Gilbert, aussi, tu t'es régalé en voyant cette Espagne.
Alors moins, enfin. Non, je vais expliquer pourquoi. Je me suis pas forcément régalé tout le temps. Déjà, je trouve très intelligent, parce que souvent les sélectionneurs, ils veulent un peu, ils disent oui, moi j'ai mon style de jeu. Ça, c'est une preuve d'intelligence du sélectionneur quelque part, de se dire attends, il y a ici une méthode qui marche, il y a un club qui fonctionne avec un style que je peux reproduire. Les mecs ont l'habitude. Moi, je dis chapeau l'artiste, plutôt qu'à essayer de faire le malin, à faire un truc qui va pas fonctionner ou qui serait ni fait ni à faire. Voilà. Non, moi j'ai toujours eu un problème avec parce que ce style Barça. Moi, à l'époque, on l'avait dans l'After rebaptisé le style mouche tsetse. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'endors l'adversaire avec des petites passes à 2m50. Là, du gars, il kiffe ça. Moi, je préfère le jeu un peu plus vertical.
Parce que c'était efficace. Que c'était efficace. Autrement, quand ça allait pas, ça m'ennuie. Hein. Je regarde le Barça jouer en ce moment, ça me fait chier.
Parce que tu vois, quand il joue au handball devant la surface,
bien sûr,
en attendant que Messi fasse la bonne passe, au moment, t'as envie de dire oh coco, là, on y va, quoi. Je joue au bout d'un moment.
Oui, t'as raison, Gilbert.
Ouais, Iniesta aussi, elle a filé quelques caviar. Hein.
Et ouais, tout à fait. Mais tu vois, t'attendais, ça tournait, puis t'attendais qu'il y en ait l'un ou l'autre qui voilà.
Mais c'était tellement nouveau,
Gilbert. Si je puis me permettre, c'était un peu du football peine à jouir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça mettait un peu du temps.
T'as l'air d'être un spécialiste.
Un peu du temps à arriver, quoi.
Tu connais le problème?
Alors, mais c'est vrai.
Alors, je pensais que t'allais vous parler, c'est pour ça que j'ai toujours
été plus Real Madrid. C'est pour ça que Real, il aime bien, c'est plus vertical.
Non, Gilbert a dit un truc important. Il faut pas oublier que la finale, c'est-à-dire que quand l'Espagne gagne le mondial en 2010, ils gagnent leur match 1-0.
C'est le gagner sans avant-centre.
Avec un faux numéro 9.
À 2010, il y a Villa, mais c'est 2012 où c'est Fabregas effectivement qui joue.
Parce que il faut pas oublier que cette équipe d'Espagne est le champion du monde ayant marqué le moins de buts dans un tournoi.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'était une équipe qui était ultra offensive.
Donc finalement, elle a bien caché son jeu. Donc c'était une équipe qui était surtout puissante défensivement, finalement. Alors que,
de contrôle de la balle.
Alors que l'image de cette équipe d'Espagne 2008-2010, c'est de dire, ben, elle était flamboyante, elle marquait des buts, et là, tu es en train de nous dire le contraire, Fred.
Le contre-exemple, c'est le mondial 2010. Sinon, quand même, sur les 2 euros, ils sont assez flamboyants.
Oui, mais enfin, le gros titre, quand même, parce que l'Espagne avait déjà été championne d'Europe en 64, c'est quand même le mondial.
Disons qu'en phase finale, il n'y a que des victoires 1-0 de l'Espagne. Voilà. Et, si et en finale, c'est après prolongation.
Je me rappelle très bien de l'avant Euro 2008, dans l'after, où en fait, on chambrait Fred en permanence sur toi, de toute façon, l'Espagne, t'as rien gagné de ta vie, à part un pauvre Euro dans les années 60, si je me souviens bien, ils avaient ça avant.
64, ouais.
Enfin, le seul Euro qu'ils avaient, enfin, le seul titre qu'ils avaient, c'était ça. Et à chaque fois, Fred, il disait, ouais, bon, moi, normalement, dans 10 jours, je suis en vacances, les mecs, hein. C'était le mois de juin, il faisait beau, tout ça.
Oui, c'est vrai.
Et il y avait l'exemple 2006, où on a lancé l'Espagne très forte et qui est sortie en 8e par la France.
Comme quoi, hein, les choses se retournent vite.
C'est ça. Fred, tu voulais...
Non, mais c'est vrai que par rapport au style flamboyant, c'est-à-dire qu'il faut voir une chose, c'est il y a quand même le jeu en tenaille de récupération de la balle du Barça, qui est quand même... parce que c'est une équipe, même le Barça à l'époque, beaucoup plus défensive qu'on ne croyait.
Et ça, tu veux dire les gros pressings où tout le monde court comme des dératés, voilà.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que...
Parce que le Barça a perdu depuis, d'ailleurs.
Un effet tenaille... pour récupérer la balle, qui a toujours été impressionnant au moment du Grand Barça et au moment de la Grande Espagne. Et puis t'as avec un Busquets, avec voilà, Busquets, c'est sur le terrain. Enfin, ça a été le meilleur milieu défensif du monde pendant de nombreuses années. Là, il est un peu vieilli, quoi. Mais c'est-à-dire, faut l'Espagne avait des.
N'exagère pas. Le Busquets, c'est un bon joueur, le meilleur défensif du monde.
Attends, Busquets. Excuse-moi, Busquets.
T'as raison. Fredo, tu t'emballes un peu là. Tu t'emballes un peu.
Attends, je sais pas ce qu'il vous faut, franchement.
Là, c'est non, mais tu veux te rattraper par rapport au Real
ou à son poste.
Pardon ?
Au moment de 2010 ou dans l'histoire ? Tu disais le meilleur 6.
Moi, oui. Non, à l'époque, je dis que à ce moment-là, à l'époque, c'est le meilleur.
D'accord.
Dans un système qui favorise, parce que le fait, c'est quand t'as le ballon, c'est plus facile de le récupérer quand t'as logique. T'as moins le récupérer quand t'as logique à toi, c'est de garder la balle. Mais ça, c'est vrai, quoi. Mais quand même, Busquets, on peut pas lui retirer l'importance à Busquets, Xavi, Iniesta. Enfin, on faisait pas mieux,
mais il y a un moment, Fred, eux, ils préféraient tout l'allant à l'époque. Voilà, bah, laisse-leur, hein, si tu veux. Ouais, c'est une autre façon de voir le foot.
Et pourtant, je suis pas fan du personnage, mais.
Ce sarcasme ne va pas me manquer, je te le dis de suite.
J'imagine.
Ceci dit, je vais te dire un truc. Louis Aragonès, il a quand même rien inventé parce que le faux neuf, on l'avait en 98, on a, il était faux neuf, faux sept,
faux joueur à l'arrivée.
Le pauvre Luis Aragonés, il s'est pris, je pense que c'était toujours et encore lui, c'était en 2006, lors du France-Espagne, où il a fait jouer trois avant-centres dans la même équipe.
Ah non, d'accord.
Vous voulez que je vous raconte un truc?
C'est bien
horrible.
Ça, non,
trois avant-centres, Fred?
T'es sûr?
Non, ah, je crois qu'il y avait
la France.
Il y avait Torres, il y avait Raoul, il y avait.
Gilbert, toi qui as commenté le match.
Je sais pas, moi je me souviens que de Ribéry. Le reste, oubliez-moi.
Et Zidane, quand même.
Mais reprenez, c'est le match reprenez Ribéry, la composition.
Bah, j'arrive. Du calme. Raoul, Fernando Torres.
Mais tu l'as pas préparé, ton équipe.
Si, Raoul, Fernando Torres et Villa, effectivement, ah bah ouais, les trois en même temps. Voilà.
Mais vous me prenez pour un. Moi j'ai pas besoin, je sais pas me servir dans l'ordinateur.
Donc tu te sers ta mémoire.
Fred,
bravo, Captain.
Quelque chose,
Fred. Bravo, Captain. Mais on n'a pas le droit de jouer comme ça, là, les trois ensemble, c'est interdit.
Non, mais Raoul, il jouait hyper reculé.
Ouais, tu peux jouer avec les trois. Tu peux jouer aussi avec 10 attaquants et un gardien de but. Hein, t'as le droit. Hein, c'est
bon, très bien.
Ouais, m'agresse pas.
Je vous raconte l'après-match quand Luis Aragonés, je le croise.
Bien sûr. Mais quand? En 2008? Non.
En 2006. En 2006. Alors, moi, à l'époque, je faisais aussi le mondial sur la télé espagnole. Et il y a Luis Aragonés qui est éliminé par la France et qui, deux jours après, vient au programme, quoi. Et on se connaissait, hein, depuis longtemps. Il s'approche de moi. Il me regarde comme ça, il me dit alors, Franchouté, c'est un mot pas très sympathique pour dire le français. Alors, Franchouté, hein, je dis, désolé pour les oreilles chastes, hein, tu t'es chié dessus contre nous, hein, t'avais peur qu'on te batte, hein, t'as eu peur, hein. Il était.
Et ça t'a excité, je suis sûr que ça t'a excité, ça.
T'as eu peur, hein.
Non, moi, c'est plutôt, c'est bien qu'on se frappe,
non,
c'est ça.
Non, mais arrêtez,
Mais non, je te jure, mais pour dire, il était un mauvais perdant, mais c'était terrible, c'était pas vraiment un mec sympa, donc.
Oui.
Bon, tu t'en fous de mon anecdote.
Non, il était très bien. Mais,
on aurait préféré que tu lises qu'il y a un cocktail qui s'appelle le Franchouté dans un bar un peu interlope, et puis voilà, là, c'est plus
sympa. Non, arrête, ça va très chic en face du congrès, il y a le roi qui y va.
Oh, le roi, t'as raison, c'est une bonne référence.
Philippe VI.
Ah oui, celui-là, oui, ça va.
Bon, alors, on va essayer
de reprendre. Des émissions et des historiens, c'est quand même quelque chose d'incroyable. J'apprends
des choses. Oui. C'est vrai. Alors, on va revenir sur certaines individualités, mais c'est difficile d'en retenir une seule sur les trois victoires à chaque fois, même si certains sont quand même les marqueurs de chaque victoire. Ramos est là à chaque fois. Xavi est là à chaque fois. Iniesta également. Et après, certains rentrent, Casillas bien sûr dans les buts. Fernando Torres, c'est là, même s'il perd sa place de titulaire, il marque quand même sur les deux finales d'Euro et il est remplaçant en 2010, mais lui aussi. J'en oublie là, Fred ?
Jonathan Deva, oui, parce que Capdevila, il part après. Marco Senna. Marco Senna n'est même pas au mondial, il me semble.
Non,
parce que c'est Busquets.
Non, au mondial, il y a
blessé,
plus de Barcelone.
Quelque chose comme ça.
Ah oui, il y a plus de Barcelone, ouais, effectivement. Alors justement, on va revenir dans un instant sur ces individualités en détail. Qui méritait vraiment le Ballon d'Or parmi tous ces joueurs? Est-ce que c'est une injustice d'ailleurs qu'aucun ne l'ait remporté? On revient dans un instant dans Team Dugas sur RMC.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, Team Dugas continue, 19h28 avec Jean-Louis Tour, Julien Cazard, Fred Hermel, Gilbert Bribois et Capitaine Larquet, que du beau monde. Alors c'est plus tout jeune effectivement, mais c'est du beau monde.
Tu sais mettre les gens en valeur et ça, bah, ça fait
bien
plaisir.
Sûr. Ah bah écoute.
Alors, en parlant de jeunes et de jeunesse, le blind test sera là dans un quart d'heure.
C'est plus jeune d'ailleurs.
Bah, c'est moi.
Après
c'est moi.
Ah non, c'est moi.
Ah non, ça c'est Gilbert, ouais.
Non, non, mais Gilbert, c'est pas vrai.
Eh ben si.
Non, mais il est temps de briser.
Tu sais, moi, mon vrai prénom, c'est Kevin, en fait. Gilbert, c'est pour l'antenne, hein. C'est pour faire plus sérieux.
Moi, je pense que parmi les moments forts de Team Dugas et de ton passage, je garderai le moment où tu t'es rendu compte que Gilbert était plus jeune que toi. C'était excellent.
Non, mais c'était une surprise. Ça a été une grosse surprise. Mais... Non, mais les auditeurs, ça sert à rien. Mais Ludo, c'est pareil. Ludo qui est plus jeune que moi. Non, mais c'est une blague.
Ça, c'est Ludovic Languet qui est le responsable des consultants. Avec qui vous parlez tout le temps.
C'est vrai qu'il...
Tu veux dire que les mecs qui bossent, ils vieillissent plus vite que les mecs qui branlent rien dans un transat. Ouais, ça en apprend un truc. C'est fou, ça.
Après, ça le fait à tout le monde. Quand vous voyez à la télé un reportage, n'importe quoi, et vous voyez le nom de la personne en bas, vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis pas plus vieux qu'elle ou que lui. Enfin, c'est
moi, ça me fait jamais ça. Mais en tout cas, 32-16 pour vous inscrire pour le blind test. Le moment où tu restes jeune du gars, c'est le blind test à 19h45. Donc 32-16 pour vous inscrire. On refait ensemble la Grande Espagne, donc celle de 2008 à 2012, qui a remporté 2 euros et une Coupe du Monde. Et on va s'attarder sur ces individualités, donc, qui ont un palmarès extraordinaire désormais en club. Et aucune d'entre elles n'a gagné le Ballon d'Or. Alors, évidemment, le moment où on a créé l'injustice, c'est 2010 pour Xavi et Iniesta, notamment, hein, Fred.
Oui, alors il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus, sur ce fameux Ballon d'Or. C'était la première année où c'était la FIFA et France Foot.
Ouais.
C'est-à-dire, ça durait pendant 5 ans. Aujourd'hui, c'est de nouveau, grâce à Dieu, 100% France Foot. Mais à l'époque, il faut voir les votes.
Grâce à Dieu.
Ah,
c'est cool.
Et je crois qu'il n'a rien à voir là-dedans. Enfin, bref.
Rappelez-vous, le vote des journalistes, l'année où Messi gagne, deuxième Iniesta, troisième Xavi. Si on prend, alors, rappelez-vous, à l'époque, c'était les journalistes, les sélectionneurs et les capitaines de sélection. Pour moi, cette année-là, c'est un certain Schneider qui aurait dû gagner. Puisque Schneider gagne la
finale de Ligue des Champions, il fait finale
la coupe, le calcio, et il est finaliste avec les Pays-Bas du mondial. Et les journalistes avaient élu Schneider. Et ensuite, avec les capitaines, etc., nanana, le mélange a fait que c'est Messi qui a gagné. Mais il faut expliquer une chose à l'époque, c'est que le Barça avait fait une communication, une campagne en faveur de Messi, qui était un truc de malade, jusqu'à même obliger Iniesta et Xavi à dire que non, c'est Messi qui méritait. Faut voir. Parce que, moi, j'ai vécu ça de tout près, puisqu'en Espagne, c'est le Ballon d'Or. Ici, c'est un des. D'ailleurs, on va bientôt parler du Ballon d'Or. Là. Enfin, c'est vraiment le débat numéro un qu'il y a en Espagne dès que ça se rapproche, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a une injustice que ni Xavi ni Iniesta n'aient gagné le Ballon d'Or, mais ils n'ont pas été vraiment aidés par leur club. Hein.
En fait, cette année-là, c'est devenu le Ballon d'Or PlayStation un peu. Et il est redevenu Ballon d'Or un peu avec Modric.
Bah, complètement.
Parce que Messi fait pas une année.
Moi, je vais vous dire. Moi, je pense que le fait qu'aucun de ces gars-là n'ait eu le Ballon d'Or, en fait, et moi, je le vois positivement. Moi, je suis pas un grand fan.
Ça révèle quelque chose.
Exactement.
En fait.
Exactement. Moi, je suis pas un grand fan du Ballon d'Or parce que les récompenses individuelles dans le foot, je trouve que ça n'a aucun sens.
Eu, pour ça,
voilà.
On dirait un joueur qui l'a pas eu. Ouais.
Non, mais moi, c'est mon avis. Ouais. Hein, après, tout le monde s'excite sur le Ballon d'Or. Très bien. Chacun son avis. Et le fait que c'est le collectif et ce qui dégageait, en fait, il y a pas besoin qu'il y ait un gars qui ait le Ballon d'Or. Là, tu voyais le foot, quoi. C'était l'équipe.
Ouais.
Et
c'est
magnifique.
Oui,
mais il n'y avait pas un joueur.
C'est très bien qu'il n'y en ait aucun qui ait le Ballon d'Or. Non.
C'est vrai que ça s'est passé pareil avec l'Allemagne en 2010. C'est-à-dire t'as pas un mec particulier dans cette équipe. C'est-à-dire que c'est.
En 2014, l'Allemagne, c'est pareil.
En fait, moi, je te suivrai, Gilbert, si c'était ponctuel sur une grande compète. Là, moi, je trouve qu'une équipe qui a gagné les trois grandes compètes de suite, mérite qu'il y ait un marqueur dans l'histoire.
C'est l'histoire de Ballon d'Or.
Alors, moi, j'ai une petite théorie.
Oui.
Je pense que les gens qui voulaient récompenser ce football-là, ils ont partagé les voix entre Xavi et Iniesta.
Ouais,
et le problème, c'est qu'il y en avait deux qui le méritaient. S'il n'y avait pas eu Xavi, s'il y avait eu une équipe avec plus Iniesta, peut-être qu'il aurait eu plus. Mais là, je pense que ça a été. été partagé entre les deux.
On sent le mec qui fait la politique. On sent le
bien sûr. Il maîtrise.
T'es où dimanche dans quel bureau de vote, Julien?
Je suis sympa. Je suis sympa parce que déjà j'ai vécu la remontada. Je devrais même pas parler de ces gens. Donc arrêtez de m'emmerder.
C'est vrai. Alors bon, effectivement, Xavi, Iniesta, est-ce que Duga, tu les ranges parmi les meilleurs milieux de terrain que t'es vu à l'œuvre?
Ouais, de très loin. Enfin, le mec qui n'aime pas Iniesta ou Xavi, c'est qu'il n'aime pas le football. Ouais. Mais voilà, c'est des vrais footballeurs. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire de plus? En plus, ce qui est top aussi, c'est que voilà, avec un physique, des joueurs de petite taille, pas forcément très rapides, mais voilà, un cerveau qui marchait beaucoup plus vite que les autres.
C'est le ballon qui est vite. Hein.
Et puis un pied, la manière de faire des passes, la manière de trouver des angles de passes, d'inventer des passes. C'est le football même. Ces garçons sont tout simplement magiques.
Oui, parce que Iniesta, c'est un peu un mini Zizou, non? Un peu dans le genre, dans sa vision du jeu et tout.
Non, c'est pas tout à fait.
Bah, ça, je compare rien à Zizou, pardon.
Non, mais un mini Zizou en taille.
Non, simplement.
Non,
simplement,
Fred a fait un AVC là.
Pour ceux qui ont suivi comme Gilbert, comme Jean-Louis, comme Jérôme Rotten, comme Dugas, qui ont suivi les cours de Domenech à l'INF Clairefontaine, oui. On te dit que dans un match. C'est l'équipe qui gagne le plus de duels qui l'emporte. C'était un.
Ah, c'est ce qu'a expliqué Domenech, là, quand il faisait les formations de coach.
Donc, tu vois tout de suite sur quel plan il met le football. Et en fait, vous parliez de Xabi et Iniesta, eux, ils évitaient tous les duels.
Bien sûr.
Tu pouvais pas les attraper, c'était des anguilles. Ils évitaient. Eux. Dès qu'il voyait un adversaire, il faisait tout pour l'éviter et non pas pour aller gagner un duel comme ça, pour savoir qui avait la plus grosse, comme dit Dugas. Il faisait un football d'évitement alors que certains prônent un football de combat.
Donc toi, Jean-Michel, pour toi, le foot, c'est pas un sport de contact. C'est un sport d'évitement.
Ah ben tu sais que...
Mais moi, je pense
ça. Tu sais, Gilbert... Ah oui. Tu sais quand même que l'une des bases pour réussir une bonne passe, alors je sais pas si c'est celui qui a le ballon qui commande ou celui qui n'a pas le ballon qui commande, mais c'est plus facile de donner le ballon à un mec qui est démarqué, donc qui évite l'adversaire, plutôt qu'à un mec qui est marqué. Enfin, voilà. C'est... Après, on peut en discuter, on peut passer la nuit là-dessus, mais il me semble que c'est plutôt un sport d'évitement qu'un sport de duel et de combat.
Ouais. Mais tu parles du rugby ou du foot?
Bah, nos amis du rugby, il faudrait bien aussi de temps en temps penser que c'est aussi que l'évitement peut amener.
Le plus beau rugby, c'est le rugby d'évitement, c'est pas le rugby.
D'accord. Et oui, mais quel est le rugby qui gagne? C'est ça qu'on va te répondre à chaque fois. Et pareil pour le
Et bien justement, c'est le rugby d'évitement. Les All Blacks, ils ont pas les joueurs les plus costauds. Hein.
Non. C'est vrai que John Alomou, il était vraiment dans l'évitement.
John Alomou, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception.
Mais pour compléter ce que dit Jean-Michel, l'adjoint mythique de Valdano, qui s'appelait Angel Capa, disait toujours, le football, c'est l'engagno, c'est la tromperie de l'autre. Comment tu fais pour le tromper? Tu lui fonces pas dedans, tu le trompes.
Du gars.
Tu dis, tu regardes le ballon, il est là. Hop, non, mais il est là. Voilà. Tu vois, donc on est là. C'est un
tour. Vous voyez comment il est. Ça, c'était pour compléter.
Oui, bah, parfaitement.
Mais t'es d'accord avec moi, Jean-Michel.
Bah, oui, bien sûr.
D'évitement. Alors, effectivement, et de tromperie.
Il y avait beaucoup d'évitement, de tromperie et de fuite des duels. Mais il y avait aussi de sacrés défenseurs. On peut quand même s'arrêter là-dessus. Parce que quand la défense, c'est Ramos, Piqué, Puyol, déjà, quand il y a ces trois-là sur les quatre. Bon, c'est quand même du lourd.
Est-ce que c'est pas Puyol le plus
pour toi c'est le plus fort des trois là que j'ai cité?
Non, je pense que le plus fort c'est Ramos.
Pas du moins le plus impactant quoi dans une équipe.
Mais le plus impactant, je pense que c'est Puyol. Je pense qu'il a un tel leadership.
Ramos c'est jeune.
Moi j'ai revu. Alors je suis rarement sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis jamais d'ailleurs, mais sur Internet, j'ai revu la dernière fois un truc que m'a envoyé mon fils sur les attitudes de Puyol sur ses propres coéquipiers qui avaient des mauvaises attitudes.
Au Rayo Vallecano, on devait être ensemble, je crois, non?
Ouais, non, mais il y a des images où il reprend ses coéquipiers qui ont une mauvaise attitude par rapport à l'arbitre, par rapport à l'adversaire, il vient les chercher, les attraper deux, trois fois par le callback. Le mec, c'est un leader, quoi. Il montre l'exemple. Il est incroyable, ce Puyol. J'avais pas souvenir d'autant, tu vois, de charisme et de,
qu'il en imposait autant.
Lui, il était pas dans les débitements.
Il a évité son coiffeur, quand même.
C'est ça qu'il a évité,
Moi, dans mon souvenir, c'était plus ça sa force parce que, défensivement, techniquement, j'ai l'impression que un Ramos c'est plus fort. J'ai l'impression que lui, c'était vraiment plus de la personnalité parce que
tu ne nous écoutes pas, c'est ce qu'on vient de le dire.
Il voulait, mais je l'ai bien dit.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je le trouvais pas irréprochable défensivement.
C'est ce qu'on a dit, oui. C'était
non, je le trouvais loin d'être irréprochable défensivement.
Mais il a raison. Le but contre l'Allemagne, vous vous souvenez? Le but de la tête sur le corner.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, il se passe que il se trouve, bah, c'est au mondial, c'est en quart, c'est en huitième ou en quart, je sais plus. Contre l'Allemagne.
En 2010?
En 2010.
Là, attends que je me rappelle.
J'ai plus ma tête.
L'Allemagne, c'est en demi.
C'est en demi, hein, c'est, ouais, en demi, ouais. Ouais, c'est en demi, ouais, c'est en demi. En fait, c'est 1-0. Et en fait, juste avant le match, dans l'entraînement la veille du match, Puyol va voir Del Bosque et lui dit, écoute, il y a un truc qu'on fait pas mal au Barça, etc. Il faudrait peut-être qu'on travaille sur un corner, etc. C'est-à-dire, moi, j'arrive de très loin. Et ouais, paf, c'est ce qui se passe. Et Del Bosque dit, bah, on va le tenter si on a, dès qu'on a un corner hein, pas mal, on va tenter ça. Et il le marque. Vous savez, il arrive de très loin. C'est une tête très forte.
En oui, bien sûr, bien
très
sûr.
Loin. Et ben ça, c'est un truc, c'est une proposition de Xavi à Del Bosque avant, de Puyol à Del Bosque avant le match.
Et alors, puisqu'on est sur les défenseurs, Puyol va prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2010. Et la défense centrale en 2012, c'est donc Piqué Ramos. Ah ouais. Et c'est quand même assez fascinant aussi de voir que deux mecs peuvent se mettre sur la gueule à chaque classico, mais quand même jouer ensemble en sélection et gagner des titres.
C'est fou. Ça. Et en plus, être politiquement très éloigné.
Parce qu'il a bien joué avec Deschamps, non?
T'as dit avec Zidane.
Non mais les spécialistes de ça là-bas c'était les Allemands. Les Allemands ils pouvaient se filer sur la gueule et jouer ensemble, aller boire des verres et tout ça. Que ça arrive en Espagne, c'est vrai que ça a été une réelle surprise quand même.
Non parce qu'en plus vous avez quand même Piqué quand même très pro indépendance de la Catalogne et vous avez l'Andalou Ramos qui est à fond pour la défense de l'Espagne. Donc mais ils se complétaient très bien. Ils sont c'est deux mecs très très forts quoi. Et l'évolution
ils ont quoi comme relation au-delà de ça? Ils étaient potes? Ils étaient
Non, pas vraiment potes.
Politiquement, tu es aussi t'es opposé à ce point, tu peux pas être pote, c'est pas possible.
Non, il n'était pas pote, mais il se respectait professionnellement, bien entendu. Quoi. Donc, mais il y a toujours des petits piquets, justement, des petites piques entre Piqué et Ramos encore aujourd'hui, hein, donc, notamment sur l'arbitrage et des trucs comme ça. Donc, Ramos a encore répondu.
C'est parfois un peu justifié quand même.
De quoi?
Ramos?
Non, sur hier par exemple, il y avait un petit match, non, du Real Madrid.
Ah, l'arbitrage. Ouais. Non mais l'arbitrage en Espagne, il est nul pour tout le monde.
Bah oui.
À un moment, faut.
Non mais moi, je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai
trouvé
Ramos. Ramos est plus complet que Piqué.
Oui.
Du gars.
Moi, Piqué, j'arrive pas. Il a fait des grandes choses. On peut pas lui enlever ses titres. Personne ne lui a donné.
Je suis d'accord
avec lui. Il a fait des. Mais moi, je suis pas fan du tout de Piqué. Je le trouve lent. Je le trouve souvent mal placé.
Il a eu la chance de jouer dans les grandes équipes à chaque fois, quoi.
Bah, le truc dont on est convaincu, c'est que Piqué ailleurs qu'au Barça, on n'en est pas convaincu, mais on a du mal à l'imaginer. Alors que Ramos, tu te dis que tu peux le mettre partout.
Mais Ramos, c'est encore le coup franc qui met hier soir, là.
Ramos, il fait partie des 5 plus grands défenseurs au monde, sans aucun doute.
Exactement.
De l'histoire.
Même de l'histoire peut-être. Ouais. Ramos, c'est fou.
Mais déjà, il a été latéral, donc il a une palette technique, tout ça, au niveau offensif et de tout, qui est plus forte, quoi.
Il a commencé attaquant quand il était jeune, donc c'est quelqu'un qui est très fort. En plus, il a un caractère, mais c'est vraiment un gagneur. Et c'est surtout celui qui amène la cavalerie. Enfin, vous savez, quand ça va pas, t'as Ramos sur le terrain et il dit bon les mecs, on arrête de déconner. Il a un pouvoir de conviction et une autorité sur ses partenaires.
Qui est quand même très important. Il a quand même marqué
des buts
un peu important, tu vois.
Il marque des buts en plus. Des buts importants, bien sûr. Non, mais ça, sur les 20 dernières années, qui est au-dessus de Ramos, j'en vois pas beaucoup. Un défenseur pur, qui est capable de marquer des buts décisifs, qui a gagné autant de titres, qui tout ça.
C'est compliqué.
Materazzi.
Maldini, quand même.
Non,
je suis même pas sûr, Maldini, moi.
Moi, j'allais dire Laurent Blanc et Le Boeuf, mais effectivement. Maldini, t'es pas sûr, ouais.
Non, je suis même pas sûr. Non, je préfère avoir Ramos que Maldini dans mon équipe. Alors, après, parce qu'il est latéral aussi, il est latéral, donc c'est un poste qui est moins exposé. Quand t'as un mec dans l'axe comme ça, qui est un patron. Comme Ramos.
Cannavaro, il était dur, hein. Il était dur, Cannavaro aussi.
Je préfère Ramos.
En fait, lui, c'est un mélange de Nesta et Cannavaro, quoi. C'est ça, il a les deux. En fait.
Et puis, il faut quand même dire un mot de Casillas, le gardien, qui a fait ses arrêts décisifs dans toutes ces compétitions, Fred.
Ah oui, qui a été fantastique. Et c'est je me souviens, un pénalty contre le Paraguay au Mondial où il y a pénalty pour le Paraguay, il l'arrête. Et là, on se dit, l'Espagne, l'Espagne va, je sais plus, en huitième ou en quart, parce que j'ai tellement de mal, il y a tellement de matchs à l'époque, où on dit, l'Espagne va encore s'arrêter. Et là, il fait un.
Paraguay, c'est en quart.
C'est en quart, c'est en quart. Et là, il arrête le penalty. Non, mais Casillas, c'était à ce moment-là, c'était un type
le meilleur gardien du monde.
Meilleur gardien du monde. Et pour en avoir discuté avec Ancelotti, voilà, le préparateur des gardiens d'Ancelotti, qui s'appelait William Vecchi, disait Ancelotti, il me dit, Casillas, c'est pas le meilleur. Mais il a de la chance. En plus, il est bon, c'est pas le meilleur.
C'est vrai qu'à un moment donné, il a eu quelques poteaux sortants qui étaient pas.
Ouais.
Qui étaient pas mal,
mais la plus belle histoire de Casillas, c'est quand même qu'avant qu'il soit en couple avec Sonia Carnero.
Non, Sarah Carbonero.
Non.
Sarah Carbonero. C'est donc pas Sonia Carnero qui travaille chez nous.
Et là, j'ai eu un choc, mais.
On embrasse Sonia.
J'ai eu
c'est surtout qu'avant qu'il soit avec Sarah Carbonero, le soupirant de Sarah Carbonero était Fred Hermel. C'est surtout ça l'histoire de Casillas.
Alors non, enfin oui, enfin j'ai un peu essayé. je vais reconnaître que voilà, que je la trouvais charmante.
Bah, tu es en train de nous expliquer que t'as essayé. Non mais
que t'as pris une veste.
Ouais, bah, non, je suis pas allé jusqu'à la veste.
Non, par dessus.
J'ai vite compris que je jouais pas la même division.
Tu vas quand même pas lui reprocher d'essayer.
Mais non, mais au bout d'un moment, il faut savoir être lucide aussi. Non, mais c'est pas malentendu qu'il faut là. C'est des épidémies de choléra. Non, mais c'est seul au monde. Non, mais seul au monde. Là, il faut que c'est Michel Blanc, c'est Jean-Claude Duss.
Sur un malentendu, effectivement. Non, mais bon, un gros malentendu.
Non, mais ce qui était terrible, rappelons juste quand même
que Sarah Carbonero, c'est donc Madame Casillas, et c'est une journaliste assez réputée en Espagne qui faisait les bords terrains. On se souvient notamment qu'à l'Euro 2012, lors du quart de finale France-Espagne, je ne sais plus qui, je crois que c'est Martin et Ménez qui s'amusent à l'échauffement à envoyer des ballons sur Sarah Carbonero.
Ouais, exactement.
Très fin.
Voilà.
Très fin. Mais Fredo est très beau, très élégant, beaucoup de charisme et tout, mais c'est pas suffisant là, c'est catégorie au-dessus. Là,
c'est pas un cocktail qu'il y aurait fallu à son nom. Il aurait fallu passer l'étape au-dessus.
Il faut savoir reconnaître que voilà.
Non, mais je pense que Fred l'a peut-être abordé comme ça. Tu sais que j'ai un cocktail à mon nom et tout. Enfin bon.
Non mais je voulais vraiment que je vous dise comment je l'abordais.
Je pense qu'il l'a invité à
Marseille.
Si c'est racontable.
Alors vas-y.
Parce que c'est l'époque où j'apprenais l'hébreu. Et je lui dis, ah Sarah, tu sais comment ça s'écrit en hébreu et tout. Puis je lui écris en alphabet hébraïque et tout.
Et ça s'est arrêté là.
Et ça voilà, c'est tout.
Elle a dit, gratias à
Saluego.
Honnêtement, moi, d'habitude, quand tu dragues, tu sors ta carte bleue. Donc je sais pas ce qui t'a pris ce jour-là.
Bon, on va en rester là. Je pense que c'était la meilleure façon de conclure sur la grande Espagne.
Un petit mot sur Iniesta, le but de la finale, s'il te plaît.
Oui, bien sûr.
Et la dédicace à son ami Dani Radke, joueur de l'Espagnol, qui était mort quelques mois auparavant.
Et ben voilà.
Voilà, ça c'était l'image pour en Espagne, l'image du mondial, c'est Iniesta qui marque et qui soulève son maillot, et il y a le message pour son ami.
Et Iniesta qui applaudit partout les saisons suivantes, ce qui est très rare pour un joueur du Barça, donc effectivement le geste a une portée forte. Voilà pour l'Espagne. Fred, tu restes avec nous bien sûr pour le blind test. Hein. On revient dans un instant, allez, à tout de suite. Alors, on a cité quasiment tous les joueurs de cette équipe d'Espagne, hein, mais je rappelle quand même qu'il y avait donc Capdevila également, hein, qui fait deux compétitions. Pedro, le Barcelonais, qui va s'imposer à partir de 2010. Arbeloa.
Quand même.
Comment Pedro,
bizarre ce joueur.
Mais bon, oui. Mais il était là quand même. Xavi Alonso, hein, dont on n'a pas parlé, mais qui s'installe vraiment au milieu de terrain avec Busquets.
Très bon joueur.
Et la différence après, c'est surtout en le 9, c'est qu'il
avec Fabregas.
Vous n'avez pas depuis longtemps.
Oui.
Non, mais même, tu sais, tu dis Fabregas, mais il a énormément compté Torres. Hein. Il a mis des buts hyper importants. Oui.
Bah, oui, Torres. Bien sûr, il marque dans les deux finales d'Euro.
Ouais, c'est pas rien. Hein.
Le seul but en 2008 et l'un des buts en 2012 de la large victoire contre l'Italie. Donc ouais, effectivement. David Silva également, bien sûr. Hein,
il revient, mon ami, oui.
C'est l'ami de Captain Larquet, voilà. Donc voilà pour cette équipe d'Espagne, bien sûr. Peut-être un but, Fred, en plus, que tu as en tête, qui te revient
Non. Oh, pour moi, sincèrement, c'est
celui d'Iniesta.
C'est celui d'Iniesta, parce que, en fait, s'il fallait un mec qui marque, c'était lui, parce que c'est peut-être le mec le plus sympa de toute l'équipe. C'est celui qui au départ est supporter du Real, qui vient de Castille-la-Manche, c'est-à-dire vraiment l'Espagne profonde, qui à l'âge de 13 ans va à la Masia et fait toute sa formation au Barça, qui est aimé partout, qui est vraiment un type qui n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre et tout ça, qui était, tu sais, c'est le gendre parfait, Iniesta. Donc c'était.
Et il est où aujourd'hui?
Il était à Kobe au Japon.
Ah oui.
Ouais. C'est pas pour son business de vin qui est un peu.
C'est pour ça. En fait, tu sais tout, toi. C'est impressionnant. Oui. En fait, il est de la Mancha. La famille d'Iniesta fait du vin. Il fait du vin et le business marche pas très 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 bien. Ah. Et donc partir au Japon, c'était aussi essayer de l'ouvrir des nouveaux marchés.
Très bien. Voilà donc pour l'Espagne, on revient dans un instant, le blind test comme promis.
RMC, 18h20.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Tim Dugas pour encore une dizaine de minutes, vous le savez, c'est le moment du blind test.
Alors on y va tout de suite avec une équipe Dugarry, Hermel, Bribois et une équipe Kazar.
Ah non, moi je suis sûr avec Kazar, on est invaincu.
Bon, bah alors va avec Julien et Caroline Larquet.
Alors là, tous les deux, on est invaincus, mon vieux.
C'est une stat inventée, ça. Ça, c'est bien les mecs de l'after. Daniel est capable de nous sortir la même chose.
Invaincu, invérifiable,
etc. Bon, on va faire ça entre vous, hein, et évidemment, on va voir qui est le plus fort. Dugas, t'es prêt?
Moi, je suis avec qui?
Avec Dugas.
Bien sûr.
Que tous les deux?
Oui, tous les deux.
Oui, mon Fredo, t'inquiète.
Vous êtes excellent.
Jean-Michel
est avec vous deux.
Je vous supporte là.
Non mais sinon vous avez raison. On va plutôt équilibrer. Captain passe avec Dugas et Fred.
Oh, c'est bordel cette émission.
Et en face donc Gilbert et Julien, parce que vous arrêtez pas de chanter. Vous êtes tous les deux.
L'after, c'est bien mieux organisé. Bah,
évidemment, c'est mieux organisé.
Ah bon, vraiment les quiz de l'after. On écoute quelques extraits.
Pardon. Il y a une critique.
Non, il y a une remarque d'auditeur. C'est pas toujours très carré.
Les Chicago Bulls avec
très bien. Allez, on n'a pas le temps. Donc une chanson.
On est en demi-finale.
Une chanson. Vous trouvez l'interprète et derrière une question foot très intéressante. La première chanson. Vous trouvez l'interprète.
Angèle,
bien sûr, Fred. Et du gars, vous êtes ensemble, vous inquiétez pas.
Ah oui, c'est parfait, oui. Super, bravo.
Il me dit toi qu'on prend. 1-0 donc. Angèle donc. Voilà, c'est simple. Un surnom d'Angèle Di Maria. Un
de ses surnoms. El Fideo.
Gilbert, bien joué. El Pollo,
El Pollo, c'est Fred Hermel qui l'appelle comme ça.
Ouais, El Poulet sans tête.
Il y avait Angelito ou Fideo, bien sûr.
Fideo, c'est fil de fer.
Très joli, exactement. Vraiment, c'est très joli, très classe.
Et toi, Dugas, c'était quoi?
Si tu savais.
Voilà. Allez.
La machina.
Oui, c'est ça. À Marseille, pas tout à fait.
Alors, en Italie, ça veut juste dire la voiture. En Italie, ça veut juste dire la voiture.
Nouvelle chanson, on y va.
Scorpion.
Ah non.
Linklid.
Non.
Weekend.
Oui, Weekend. Weekend. Oh là là.
Bien joué.
Mon gamin, il écoute que ça, ça me saoule.
T'attendais quoi, LinkedIn au début?
Ouais, je dis n'importe quoi, je comprends du LinkedIn avec Weekend.
Blinding Light.
The Weekend donc.
Ouais.
Quel jour le Weekend débute-t-il dans Team Dugas?
Jeudi.
Bien joué,
Gilbert. C'est vraiment honteux. Hein.
Ah ouais, t'es
assuré, mon Jean-Louis. Honnêtement,
c'est vrai que vous dites.
Officieusement, c'est mardi hein, pour moi. Hein,
ce qui se passe, c'est que j'ai écrit ça. Et ensuite, j'ai écrit, bon, plus sérieusement. Et je vois que j'ai pas écrit une question foot derrière. Donc, bon, voilà, on reste là-dessus. Ça fait 2-2. Nouvelle chanson. Faut trouver.
2-2.
Bon. L'interprète.
Ça, c'était la question foot. Ouais.
C'est ça. Bah, c'est Tim Dugas, c'est une émission de foot.
D'accord.
Johnny.
Non. Captain, tu peux jouer.
Ah non.
Ah non.
Pas Guns, mais.
Scorpion.
Non, pas loin.
ACDC.
Non.
Eurythmics.
Metallica,
Julien. Oh, Julien.
Bienvenue,
Julien, 3-2.
Ils ont tous dit, c'est fou ça quand même.
Mais quel accent anglais, Captain Larquet, c'est impressionnant. Quand il a dit Eurythmics, là, Captain, c'était magnifique. Ouais.
3-2.
Et comment veux-tu que je dise?
Ah, c'est parfait, bravo.
En pas toi, Bernet.
Mais cette chanson, donc.
Alors attends, c'est qui le...
3-2 pour nous, Captain. Ah non, ça n'est pas avec nous.
Non, exactement. 3-2, donc. Sorti en novembre 2019. Qui est élu joueur du mois de novembre 2019 Thauvin. En Ligue 1 C'est pas Thauvin.
Payet.
C'est pas Payet.
Je joue même pas.
Mandanda.
Zlatan. Di Maria.
Non. C'est pas un joueur du PSG.
Sanson.
Falcao.
Non. C'est un joueur qui est à Lyon, mais il n'était pas à Lyon à l'époque.
Depay.
Non.
Reine Adélaïde.
Oui, Captain Larquet, Reine Adélaïde, 3 partout.
Ah ouais.
Bravo, Captain.
T'imagines, on en est à des mecs comme Reine Adélaïde, meilleur joueur de Ligue 1, t'imagines? Pff, la violence. Du mois, je te rassure.
Ouais, enfin même du mois. J'ai un problème, c'est semaine. Quoi, on n'a pas prévu la SketchUp pour Fred Hermel, là, mais bon, ouais, on sait. Tu peux quand même trouver une bonne réponse, Fred.
Excuse-moi, j'ai dit la première, c'était Angèle, j'étais.
Ah oui, c'est vrai, bravo. Nouvelle chanson, 3 partout.
Aznavour.
Fred Hermel,
Aznavour.
4-3.
Oh non, t'as pas le droit.
Ah, j'ai le droit.
Formidable.
Mais j'ai un décalage avec Fred, moi.
Oui,
il est pas en studio, comment ça se fait?
Parce qu'il a un meilleur internet que toi.
Eh bah ouais.
Eh oui. 4 à 3.
Tu devrais me le laisser. Tu devrais me le laisser.
Julien, réveille-toi là.
La question.
Julien Aznavour, le truc que je lise.
Donnez-moi un joueur de foot prénommé Charles.
Charles Labi.
Corridon.
Charles Caboret.
Charles Labi. Jean-Tétienne. Saint-Étienne.
Corridon. Oui, oui, c'est Gilbert. 4-4. C'est Gilbert le premier. Et c'est Charles-Édouard Corridon. Il y avait Charlie Tange.
Voilà. C'est Charles-Édouard
Charles Itange. Charles-Hubert Itange.
Charles-Hubert.
Charles Fouillol.
Bon, ça fait 4-4. Oh bah bon, on va se décider sur cette dernière chanson alors.
Vas-y Julien.
Bon, je vais essayer.
Amy Winehouse.
Eh oui, Amy Winehouse. Amy Winehouse. Victoire de Duga Fred et Captain. Première défaite pour le duo Cazard-Bribois.
Bravo. C'est vrai qu'il y a vraiment une meuf qui s'appelle Maison du Vin, j'aurais dû trouver quoi.
Normalement oui. Merci tout le monde. Gilbert Bribois, Julien Cazard, Fred Hermel, on vous retrouve dans l'after ce soir. Ah oui.
Et bon week-end, bon week-end du gars.
Bon week-end du gars, effectivement. Captain, à demain dans Rotten Régal à 18h. Du gars, on se retrouve lundi. Ne ratez pas les meilleurs moments de Team du gars les samedis et dimanches entre 18h et 20h. Le foot, c'est demain. Rotten Régal à 18h. Et dans un instant, avec le RMC Football Show spécial Coupe d'Europe, sachez que Valence est mené 1-0 à Eibar et Arsenal mène 1-0 à Southampton. Ciao à tous.
RMC 18h-20h. Team du gars.